C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps...
Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens ?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 4, dans moins d'une demi-heure la Libre Antenne, jusqu'à 1h30 du matin. Demain soir, France-Autriche, France-Pays-Bas, ce sera vendredi prochain. Walid Acharchour est là, Florent Gautreau est là. Et Polo Breitner, l'homme qui suit l'Autriche de près depuis maintenant des années. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Ah tiens, on avait aujourd'hui Nicolas Pelletier, notre reporter, qui est allé en Autriche. Il a fait son petit reportage auprès des supporters. Alors l'Autriche, pays de ski à la base quand même, commence à devenir gentiment un pays de foot. Et il commence à prendre la confiance.
Il y a un certain historique quand même en Autriche.
Oui, là, mais je sens les clichés là, Polo.
Oui, les clichés.
Ça reste un vrai pays de ski.
Ça reste aussi un pays de ski, principalement.
Mais enfin bon, les années 30, la Wunderteam, ça a marqué l'histoire du football quand même.
Mathias Sindelar.
Mathias Sindelar, notamment, mais pas que ça. 54, il y a toujours, évidemment, la génération 78-82 avec Rankel et Prohaska, etc. Mais non, c'est justement, c'est très intéressant le football autrichien. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années en allemand, parce qu'en fait, l'histoire du foot autrichien est à l'image de l'histoire de l'Autriche. C'est-à-dire que c'est un pays quand même qui a du mal à avoir accepté le fait, on en parlait, je sais plus, c'était hier, je crois, Gilbert, la disparition de l'Autriche-Hongrie. Et le foot est une façon, en fait, de montrer qu'on existe toujours, en fait. Et il y a beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits historiquement à la fédération autrichienne avec certains sélectionneurs aussi. Et depuis quelques années, ça va mieux. Comme quoi, il fallait mettre de côté l'histoire. On va dire, on n'est plus les plus grands, etc. L'Autriche-Hongrie, ça n'existe plus, et on doit essayer, à l'image de la Suisse, de se reconstruire d'une autre façon en cherchant des sélectionneurs qui vont rester plusieurs années. C'est un petit peu le cas de l'Autriche depuis Marcel Koller, notamment.
Alors Rangnick, qui était un coach courtisé à peu près dans toute l'Europe, hein, donc s'est installé en Autriche. Alors il y a quand même un truc. L'Autriche n'a perdu qu'une seule fois sur ses 15 derniers matchs, c'était contre la Belgique.
Exactement. Bon. Un match, c'était très avantageux pour l'Autriche parce que le 3-2, en fait, les Belges étaient largement supérieurs. Tu viens de parler de Ralf Rangnick, c'est très important parce que après la défaite en demi-finale qualificative pour la Coupe du Monde, le fameux barrage contre le Pays de Galles, il y a un autre match amical, Francofoda, c'est fini, et on choisit Ralf Rangnick. Pourquoi est-ce qu'on choisit Ralf Rangnick? Pour deux raisons. À l'époque, il y avait, selon la presse autrichienne, le clan des Viennois, qui était symbolisé par David Alaba, par Arnautovic, par Baumgartner, qui à l'époque jouait à Hoffenheim, contre le clan, on va dire, de la galaxie Red Bull au niveau du style de jeu qu'on voulait imposer en équipe d'Autriche. Et on s'opposait. C'est pour ça aussi que on n'avait pas forcément, même s'ils avaient fait un Euro 2021 intéressant, rappelez-vous, ils avaient été éliminés en prolongation contre l'Italie. Mais on trouvait pas exactement une identité de jeu, à l'équipe autrichienne. Et on a Ralf Rangnick, qui est peut-être la plus grande réussite de la fédération autrichienne, est arrivée, ce qui voulait dire évidemment un style de jeu version Hoffenheim, version Leipzig, et donc c'est le clan Galaxy Red Bull qui a gagné. Ça a pris du temps à mettre en place cette identité de jeu. Rappelez-vous quand, lors de la Ligue des Nations, ils n'ont pas réussi à se maintenir, ils avaient commencé par une victoire extrêmement chanceuse contre la Croatie, 3-0 en Croatie, en se disant, allez, c'est parti, parce que la Croatie, c'est pas n'importe quoi quand même. En fait, quand tu vois la rencontre, les Autrichiens n'ont pas existé. Et ils l'emportent quand même 3-0. Donc, logiquement, ils redescendent en seconde division européenne en Ligue des Nations. Mais petit à petit, Rangnick commence à éliminer les joueurs. En 2021, vous aviez en défense centrale Hinteregger et Dragovic. Dragovic, il a fêté sa 100e sélection sous Rangnick et après, il n'a plus jamais été appelé. Et là, il met des jeunes, notamment Danzo, Linhart, le jour de Fribourg, etc. Il y avait le cas d'Alaba, évidemment, qui font se poser des questions. Est-ce qu'on joue, fait jouer dans une défense à trois? Est-ce qu'on le fait jouer défenseur central? Est-ce qu'on le fait jouer au poste d'arrière-gauche? Etc. Et petit à petit, tu vois cette équipe d'Autriche, version Rangnick, donc version Red Bull, qui arrive sur le marché du foot, avec des résultats, avec le fait de ne plus jamais perdre, sauf ce match évidemment contre la Belgique, donc ils finissent deuxième logiquement derrière les Belges, mais c'est très important parce qu'ils battent notamment la Suède, qui est un peu l'équipe qui rencontre souvent l'équipe d'Autriche en qualification, et quand t'as une mauvaise équipe d'Autriche, ben la Suède va en Coupe du Monde ou en Europe, et quand l'Autriche est bonne, elle élimine la Suède, y compris celle d'Ibrahimovic. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, regardez le match d'hier soir. Vous avez vu Angleterre-Serbie, oui, par exemple. Le scénario, donc domination complète des Anglais en première division, en première mi-temps, complètement compliqué en seconde. Et ben, c'est le copier-coller du match Autriche-Serbie, le dernier match amical gagné par l'Autriche 2-1, juste avant l'Euro. Domination complète de l'Autriche pendant plus de 35 minutes. Les Serbes reviennent à 2-1, on ne sait pas trop comment. Et la deuxième mi-temps, les Autrichiens se transforment en clébards et ils tiennent la victoire. C'est un peu ce qu'on va vivre, je pense, demain, non pas sur le scénario, ça j'en ai aucune idée, mais de voir ce qu'est cette équipe d'Autriche version Ralf Rangnick, c'est-à-dire que pressing, contre-pressing, c'est un 4-5-1, un 4-2-2-2 quand lorsqu'ils sont en attaque. Vous avez un Baumgartner, par exemple, qu'on nous dit qu'il est un meneur de jeu, mais pas vraiment. En fait, c'est le deuxième attaquant à côté d'Arnautovic, logiquement. On aura Zabitzer, Laimer ou Grilic. Vous avez Zewald, qui a fait une très mauvaise saison avec Leipzig, parce qu'il n'était pas titulaire, mais qui est systématiquement
qui sera en pointe.
Ah, ça devrait être Arnautovic ou Grigoric, ça sera un des deux, de toute façon. Mais la logique, c'est que c'est plus Arnautovic.
Le petit Grigoric.
Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
En l'occurrence, il fait 1m93.
Ah mince, ça marche pas.
Ouais, j'ai sa fiche sous les yeux.
Oui, il fait 1m93.
Oui. Ok, bah écoute, Polo, on verra demain. Il n'y a pas de méga grande star dans cette équipe. Bon, on va dire que Alaba n'est pas là, donc il est dans le staff, vous le savez.
Alors ça, c'est le gros problème.
On va dire que c'est
Alaba est blessé, Schlager est blessé, les deux Schlager, parce que même si c'est pas. Alors, il y a un vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas de gardien. C'est Pence qui va être titularisé normalement demain. C'est vraiment pas bon. Vous le connaissez, hein, vous l'avez vu en L1. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir cette équipe. Ils sont parfaitement conscients d'être la dernière roue du carrosse dans ce groupe qui sont, où ils sont quand même, ils disent, enfin Rangnick l'a très bien expliqué, ça fait 2 ans qu'on attend ce genre de rencontre, mais on est parfaitement conscient que c'est le groupe le plus difficile de l'Euro et on est tombé dedans. Voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Moi, je suis impatient de voir cette équipe d'Autriche. Ne la faisons pas plus forte qu'elle n'est, mais elle peut embêter pas mal de
gens. Ne la sous-estimons pas.
On ne va pas la sous-estimer parce qu'on l'a plutôt dit qu'elle était bonne, mais j'ai l'impression que les absences dont tu parles et le problème du gardien, l'absence d'Alaba, va quand même peser.
Au bout d'un moment, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que tu as un moment le niveau déjà. Mais en fait, la force de l'équipe d'Autriche, évidemment, c'est son milieu de terrain. C'est ce que produit la Galaxie Red Bull depuis des années, hein, de toute façon. Les prochains d'ailleurs sont déjà en train d'arriver. Voir comment il va jouer devant, moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il va tenter le coup d'un allié qui s'appelle Wimmer de Wolfsburg, que j'aime énormément et qui est très jeune, ou est-ce qu'il va jouer un peu la sécurité avec Laimer décalé côté droit et mettre Grilic au milieu de terrain? Il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que le fait qu'il manque Alaba, le fait qu'il manque Schlager évidemment, qui était le véritable numéro 6 de l'équipe, ça fait beaucoup. Et puis il y a un joueur qu'on oublie, c'est Kalajdzic, parce qu'il était fait exactement pour ce genre d'équipe. Voilà. Donc Arnautovic n'est plus tout jeune, il tient pas 90 minutes. Grigoric, il a des périodes bonnes et des très mauvaises. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour le football autrichien, c'est intéressant.
Merci Polo, on se retrouve demain.
Merci
bien sûr. Bonne nuit.
Alors
l'équipe de France maintenant. Je vais vous donner, parce que nos reporters qui suivent les Bleus de près, bien sûr, nous ont envoyé ça en début de soirée. Je vais vous donner l'équipe pour demain. Vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise extraordinaire par rapport à ce qui était attendu ces derniers temps. Maignan dans les buts. Saliba donc confirmé avec Upamecano dans l'axe. Koundé, Théo Hernandez latéraux. Au milieu, Kanté, Rabiot devant la défense, Griezmann et une ligne de 3 devant Dembélé, Mbappé, Thuram. Voilà. Alors comment on va s'organiser devant? On a vu un Deschamps dans sa vie en équipe de France beaucoup plus défensif, hein. Parce que là quand même 4 joueurs clairement offensifs.
Après tout dépendra du comportement de Griezmann sur le terrain. Est-ce qu'il va être beaucoup plus haut? Parce qu'on nous expliquait dans les articles de l'équipe la semaine dernière que Griezmann devait accompagner Mbappé pour l'aider à presser. Comment ça va s'articuler? Est-ce qu'on aura le Griezmann 2022 vraiment milieu relayeur à côté de Kanté et Rabiot, ou vraiment 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec Griezmann 9,5? Ça va être l'inconnu.
Oui, et puis Mbappé Thuram, comment
Mbappé
s'organiser Thuram, devant?
Est-ce que Mbappé va être numéro 9? Est-ce que Thuram va être à gauche pour bloquer le côté gauche? Ça va être intéressant.
Bon, moi je. Et la logique est celle-là quand même.
Et la grosse info, c'est que Saliba a gagné sa place alors qu'il y a deux mois et demi, quand un journaliste lui posait la question sur le fait que Saliba était l'un des meilleurs défenseurs d'Europe et le meilleur en Première Ligue, Deschamps avait sourcillé. Et bon, depuis, il va être titulaire du premier match de l'Euro. Donc,
ça, je pense que c'est quand même dans les enseignants des matchs amicaux et de préparation dont on dit parfois qu'ils servent pas à grand chose, qu'on prend des adversaires faibles. Je pense que Saliba, là, il s'est dit, il faut que je marque les esprits. Et comme beaucoup,
à lui de saisir sa chance.
Ouais, comme beaucoup, il a parfois eu aussi, même en équipe de France, une forme de timidité, tu vois, qui a fait qu'il avait pas la même, il faisait pas les mêmes prestations qu'en club. Effectivement, là, on a senti qu'il voulait dire non, c'est bon, et c'était le moment. La porte était ouverte et entrouverte avec les problèmes de forme et de méforme des deux autres. Donc non, franchement, je pense que c'est plutôt une des bonnes choses de cette prépa. Après, c'est surtout l'animation offensive qu'il faut voir par rapport à cette équipe-là.
Dans un instant, l'équipe de France parle politique et aujourd'hui l'équipe de France était sur les chaînes d'info tout l'après-midi suite à la conférence de presse de Kylian Mbappé. On va l'écouter, Kylian Mbappé, et l'After va également donner son avis dans quelques instants. À tout de suite.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps...
Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bets en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Minuit 15, dans un quart d'heure, la libre antenne, avec Thibaut Jean-Grande, Oussem Moussaïef et Julien Cazard, qui s'est tapé l'incruste dans la libre antenne pendant l'euro. Il a raison, exactement. Et d'ailleurs, c'était pas très beau. On va voir ce soir ce que ça va donner.
On va écouter.
Alors. Kylian Mbappé en conférence de presse. On va écouter ce qu'il a dit. Il a pris position concernant les futures législatives et la situation politique en France après Marcus Thuram qu'il a fait hier. Je vous propose d'écouter tout de suite. Kylian Mbappé, c'est parti.
Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout, et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure, et encore moins quand ça concerne notre pays. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum, parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs, qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7.
Voilà, autre morceau de Kylian Mbappé pour être complet, hein, comme ça vous aurez à peu près tout, puis après on débat ensemble.
Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays, et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment, quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que j'essaye de donner la voix, pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'étais dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire, ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce que aujourd'hui, le pays, il est dans une situation qui est très importante. Non, parce que c'est des idées qui divisent. Et je suis contre la division. Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs qui sont communes, qui sont sur la mixité, le respect et la tolérance.
Voilà, il ajoute par ailleurs qu'il est d'accord avec Marcus Thuram, hein, qui est rappelé à faire barrage au Rassemblement National. On a eu Zidane en son temps, hein, qui s'était positionné, rappelez-vous, 2002.
Non, il y a plusieurs choses.
Désormais, Kylian Mbappé.
J'ai entendu Flo parler de Marcus Thuram hier soir. J'étais totalement d'accord avec lui sur ce qu'il a dit sur sa prise de parole. Je crois que Vincent Duluc en a aussi parlé aussi dans l'équipe sur sa prise de parole courageuse sur le RN, sur le fait de faire front au RN. Kylian Mbappé va dans le sens de Marcus Thuram. C'est très très bien. Surtout après le communiqué de la FFF que moi j'ai trouvé très très douteux et lâche par rapport à ce que Marcus Thuram a fait et a dit en conférence de presse. Maintenant, juste ce qui me dérange moi avec la déclaration de Kylian Mbappé.
Le communiqué de la FFF, pour ceux qui ont raté ça, c'était communiqué en gros de neutralité.
Ouais, neutralité. Alors que pour moi, je sais pas, mais quand t'as une équipe de France autant de diversité, autant de.
Pour une fois, je serais pas aussi sévère.
En fait, la fédé n'a pas le choix, ils sont obligés.
Ah oui, enfin, ils sont obligés.
Même si j'ai vu la fédé allemande.
C'est juste de dire. Attends, après tu pourras continuer ton avis, mais c'est juste de leur part de dire. Qu'on appelle à voter, c'est une chose. Qu'on appelle à voter pour un parti ou contre un parti, c'est autre chose.
Ouais, mais je trouve que par rapport à ce qu'a dit Marcus Thuram, en fait, ils désavouent un peu leurs joueurs en disant il faut pas en parler.
Non, ils disent quand même les joueurs
si on nous demande un avis, on le donnera pas parce qu'en tant que fédération, délégation de services publics.
De toute façon, ça tombe bien, on n'avait pas l'intention de leur demander.
Et après sur Kylian Mbappé, le message est très très bon. Maintenant, juste sur l'histoire des deux extrêmes. Et de mettre sur le même point l'extrême droite et l'extrême gauche. Déjà, c'est quoi l'extrême gauche? Moi, je suis apolitique, hein, mais l'extrême gauche, le Conseil d'État a quand même dit que l'extrême gauche, c'était le parti de Philippe Poutou. Donc, mettre sur le même pied d'égalité le RN et l'extrême gauche, bon, en tout cas, mon avis.
Oui, après, hein, c'est les éléments, je pense. Ouais, qu'il y a...
Non, mais moi mon avis, c'est qu'aujourd'hui, entre le RN et l'extrême gauche, je vais pas faire un dessin, mais mettre les deux dans le même sac, aujourd'hui, je sais pas si c'est une. En tout cas, je ne partage pas cet avis-là.
Moi, ce que je vois tout de même, c'est qu'on a parce quand même une sortie de Kylian Mbappé très préparée. Je pense que c'était très préparé avec sans doute son entourage. Je ne sais pas qui l'a conseillé, sa mère, quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais enfin, sans doute très préparé. Oui. Et puis attention, parce que bon, c'est courageux de sa part, et ça va le poursuivre. Parce que je rappelle tout à l'heure Zidane qui prend position en 2002. C'était la seule prise de position politique de Zidane. On en parle encore aujourd'hui, naturellement, parce qu'on s'en souvient. Bah, Mbappé, on va se souvenir qu'aujourd'hui, il a pris position, clairement.
Sauf que c'est pas la même chose. Parce que Zidane était dans un pays où, on va dire, il était suivi à 82%. Pour faire simple, c'était le score qu'il y avait eu derrière pour Chirac
face à
Le Pen. On est dans un pays beaucoup plus divisé. Et je t'annonce que ce qui va se passer là, en dehors de toute considération footballistique, à chaque occasion ratée par Marcus Thuram, qui marque peu en plus en équipe de France, ou par Mbappé, les opposants à Thuram et Mbappé sur ces histoires politiques.
Ça montre la gravité de la chose.
Mais si Mbappé te met un triplé en finale,
je soutiens effectivement leur prise de parole et le risque, puisque il y a beaucoup de débats sur mon fil Twitter, c'est pas risqué de dire ça. Si, je dis, peu importe ce qu'ils ont dit précisément et sur quelle partie ils sont intervenus, c'est la façon de prendre position aussi clairement et aussi nettement, c'est un risque effectivement pour eux. Je trouve ça très bien parce que à l'heure où effectivement leur sponsor par exemple ferait en sorte qu'aucun risque ne soit pris, ils ont quand même décidé d'aller plus loin. Et j'irais même que Marcus Thuram, il a embarqué Mbappé à aller plus loin quand il a dit ça suffit pas de dire qu'il faut aller voter. Et c'est pour ça qu'aussi Mbappé a fait cette prise de parole assez forte.
Entre l'extrémisme d'identité et l'extrémisme économique, et c'est ce que je reproche un petit peu à Mbappé, je les mets pas sur le même pied d'égalité, surtout vu le parti historiquement chez le RN. Après, ça m'appartient.
Ce qu'il a dit quand même, ce qui est intéressant, parce qu'après lui, il peut pas s'engager
Mais le message reste très très fort à la base.
Plus précisément, il est parti sur une idée qui, à mon avis, est assez intéressante, même si elle est très convenue. C'est de dire que, en tout cas, il n'allait pas sur les choses qui divisaient, il préfère aller sur les choses qui unissent. Et oui, c'est vrai que dans ce cadre-là, dans ce qu'on a pu voir récemment, que ce soit là pour le coup, et sans parler d'extrême gauche et d'extrême droite, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a effectivement des partis qui n'unissaient pas. Après, peu importe quelque part, j'ai envie de te dire. Le choix qui est le leur, je veux dire le choix de vote qui est le leur. Il a aussi porté un message pour les jeunes de sa génération.
C'est important.
Il dit juste un truc, c'est que la plupart des jeunes à qui s'adresse ne sont pas inscrits aussi, ouais, parfois sur les listes, donc ils ne pourront même pas aller voter. Parce qu'avant de voter, il faut aussi s'inscrire sur la liste électorale. C'est un DV pour la petite histoire. Je veux dire, par là qu'il y a plein de gens qui peuvent écouter, qui disent, ah bah tiens, je vais aller voter, mais ils pourront peut-être pas parce que c'est trop tard. Mais après, il se passe un truc quand même de très différent. C'est que, c'est pour ça que je dis que les conséquences que ça va avoir. Peu importe, hein, ils l'ont fait et Mbappé, c'est pas la première fois, entre guillemets, qui fait des prises de position importantes. Mais avant, on n'a pas eu ça. Il y a toute une génération où aucun footballeur ne prenait le moindre risque à ce niveau-là. Donc, je pense et je maintiens qu'effectivement, c'est effectivement courageux. Parce qu'à l'heure où tes sponsors et ton entourage pourraient t'encourager à ne rien dire,
que des mecs issus de l'immigration, issus de la diversité, parlent sur ce type de message. Et surtout Marcus Thuram qui l'a fait en premier et qui a été, moi je trouve, parfait dans son discours.
Alors, pour l'anecdote, Mbappé a confirmé par ailleurs qu'il n'irait pas aux Jeux Olympiques. Hein. Un autre soir, ce serait une grosse info, mais là, bon, je vous le glisse en passant. Et puis, il a dit, voilà, je verrai demain si j'ai les jambes. En tout cas, pour l'instant, j'ai la tête, a dit Mbappé. Donc, voilà, il confirme que physiquement, il ne sait pas vraiment où il en est. Quoi, hein. Donc, on verra ça demain.
Ça reste quand même une inconnue, ouais.
Je vous fais quand même écouter Didier Deschamps sur cette histoire, parce que lui, le sélectionneur, qui est toujours contrôle fric, qui est toujours très attentif à ce qu'il n'y ait pas de problème, pas d'interférence et tout. Écoutez ce qu'il a dit ce soir sur les prises de position politiques des joueurs.
Marcus a parlé, je ne vais pas commenter ce que disent les joueurs. Ils discutent entre eux, il y en a certains qui sont peut-être plus à même à dire certaines choses, d'autres ont peut-être moins envie. C'est une liberté aussi, voilà. Vous allez considérer, c'est très bien, il y en a qui vont dire, c'est pas son rôle, qui a raison, qui a tort. Ce sont des citoyens, évidemment, qui représentent beaucoup. La seule chose que je suis conscient, que je suis sûr, c'est que ce qui nous attend demain, l'espace d'un match, le sport... Et le football a cette capacité-là de pouvoir réunir et unir tout le monde.
Voilà, la seule chose dont je suis sûr, Monsieur Deschamps. Voilà pour cette affaire. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, lors de prochains afters. Il nous reste moins de 5 minutes, les gars. En fait, Deschamps, ça me contrarie un peu. J'ai toujours l'impression qu'il fait des réponses politiques. Tu vois,
Deschamps, c'est Deschamps.
Deschamps, c'est verrouillé.
Lui aussi aurait très bien pu dire, ouais, moi aussi, j'appelle.
Ouais, ouais, non. Voilà. Je sais pas, avec l'équipe de France qu'il a, je sais pas. Rester aussi neutre, mais bon, il fait ce qu'il veut après.
On a de l'actu parisienne et marseillaise, les gars, ce soir. Actu Mercato côté PSG, pour vous dire que Luis Enrique et Luis Campos ont discuté longuement avec Lenny Yoro pour essayer de le convaincre. Parce que vous savez que pour l'instant, c'est le Real qui est en tête hein, dans la course au Lenny Yoro.
Oui.
Mais au PSG, on a essayé de lui vendre le projet, de lui vendre du rêve. Ils ont dit voilà, tu es notre priorité absolue à ce poste. Avec nous, tu auras du temps de jeu important, tu auras une intégration facilitée.
Tu seras le déambulateur de Marquinhos.
Dans un championnat que tu connais, dans un vestiaire où tu connais déjà du monde. Voilà, en gros, on te propose plein de trucs que le Real ne te propose pas. Quoi, en quelque sorte, c'est les arguments de Campos et Luis Enrique. Pour Lenny Yoro. Est-ce que ça a marché?
Je sais pas, mais ce serait beau d'avoir Lenny Yoro pour le Paris Saint-Germain. Après, à la
on
place
m'a dit
de...
que lui, personnellement, il était hypé par le fait de jouer au PSG.
Après, à la place de Lenny Yoro, le Real qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui va récupérer Mbappé ou le PSG, je sais pas ce que je fais. je vais peut-être au Real Madrid. Hein. Donc, et j'ai vu aussi qu'il y avait eu des déclarations de l'agent de Kvaratskhelia. Qui a enfoncé la porte ouverte à un départ en disant nous on part du Napoli, on est concentré sur l'Euro. Mec fait des appels de phare au Paris Saint-Germain quand même très très clair pendant tout l'interview.
Je crois qu'il est garé devant le parc déjà. Il attend qu'on lui ouvre la porte en fait.
Exactement.
Et puis l'OM, accord total aujourd'hui pour deux Zerbi. Ça y est,
c'est gros. Hein.
Et donc l'OM et Brighton se sont mis d'accord.
Hors actu Euro.
Mais
un club sans Coupe d'Europe. Qui récupère un entraîneur aussi créatif. Et je vais te dire un truc, j'ai toujours été très sceptique parce que justement il n'y a pas de Coupe d'Europe sur l'avenue de Conceição ou à l'OM. Bon, apparemment ça n'a pas été du vent, hein, il y avait des contacts, mais moi j'ai, enfin voilà, j'imaginais pas ça. Mais alors de retomber sur ses pattes de la part de Longoria, parce que alors maintenant j'entends les gars dire oui, mais maintenant ça va dépendre de l'effectif. Ok, mais d'avoir déjà ramené ces coachs là qu'on a vu, Sampaoli, Tudor et maintenant
De Zerbi,
et par rapport à ce qu'on a vu l'été dernier pour le coup, par rapport au style qu'il avait des entraîneurs qu'il avait pris, là on est dans de meilleures dispositions quand même. Moi je suis totalement
hypé. Donc là pour la Ligue 1.
Bien sûr.
On en est à la rédaction du contrat qui sera signé donc vraisemblablement début de semaine, et De Zerbi travaille déjà sur.
Sûr que c'est pas l'ancien adjoint d'Antonetti, Jean-Marie De Zerbi, c'est bien le
non, c'est pas le même De Zerbi. C'est pas le De Zerbi qui criait derrière Antonetti.
Les débats qu'on va avoir à l'after, etc., franchement ça va être beau.
Cool. À Marseille, je vous signale par ailleurs que Vitinha quitte définitivement le club. Il a signé à Genoa. Donc Vitinha, ça aurait été plus gros transfert de l'histoire de l'OM. 46 matchs, 6 buts, et 4 passes.
C'est le PSG qui a pris le bon Vitinha.
Oui. Voilà. Il y avait le bon Vitinha et le mauvais Vitinha.
Bien revendu quand même.
Bien revendu. Et puis pour finir, avant de passer la main à la libre antenne, sachez qu'un nouveau joueur a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques. C'est Maxime Estève, le défenseur qui ne sera pas là. Donc après Chevalier, Diakité, Yoro, Barcola, Zaïre Emery et Matistel, c'est le 7e à être empêché pour venir aux Jeux Olympiques. Donc Thierry Henry est jusqu'au 3 juillet, je le rappelle, pour donner sa liste définitive. Voilà, je crois qu'on a été complet, messieurs, dames. Julien Cazard est là, avec Thibaut Oussem. Il est possible qu'il y ait une spéciale Mbappé ce soir. Ah non, Julien, il ne veut pas. Julien, il ne veut pas, il veut parler de l'Euro, il ne veut parler du Danemark.
Il veut parler de
l'Allemagne, il veut parler de Pierre de Zerbi. Il veut parler de Zerbi.
Ouais. Zerbé.
Merci Walid, merci Flo. Rendez-vous demain soir en direct de Mâcon. Après le match.
Tu sais qu'il y a Courtepaille, Julien, à Mâcon.
Entre la France et.
Alors j'ai une mauvaise nouvelle, je crois que Courtepaille a changé.
Non, c'était racheté.
Ça a été racheté, ouais.
Ils ont gardé la marque.
Ils ont gardé la marque. Je sais pas, ça va devenir Grill quelque chose.
Grill quelque chose.
Ouais. Le mot exactement, c'est Grill quelque chose.
C'est pas mal comme marque. Ouais, et la salade d'accueil quand même, ils la maintiennent.
Alors ça, par contre, ça va être plus tordu parce que Buffalo Grill a déposé plainte pour plagiat.
Bon, écoute. Bonne libre antenne en tout cas.
C'est à vous,
les gars. Oui, par contre, c'est pas un peu long, mais il est minuit et demi là. Vous ramiez sur la fin, les gars.
Quoi? Tu rigoles ou quoi?
On a fait un quart d'heure sur les 10 euros.
On a fait deux sujets qui auraient pu être des ouvertures d'un sujet numéro 1. Deux Zerbi. Et Mbappé. À la fin de l'after.
Que on n'en parle jamais de Mbappé. C'est bien d'avoir un sujet dessus. Personne n'en parle jamais. Jamais les prix, moi.
Il est parfait, Mbappé. Il est parfait en dehors du terrain. Sur le terrain. Comment déplaise, monsieur Cazard.
Il a pris Jean-Marie De Zerbi, l'assistant d'Antonio.
Ah, mais c'est important.
Là, on va rigoler.
C'est lui, en fait, qu'ils ont fait signer.
Gratuit.
Allez, à demain.
RMC, l'after foot intégral Euro.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.